Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Cette émission d'Isabelle Lasserre a été réalisée par Anna Holweck, préparée par Roxane Poulain et Hélène Lefrançois, mais aussi Léa Sabourin, à la technique aujourd'hui, Valentin Bobinet. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, cette dernière émission de la semaine est consacrée à notre table ronde d'actualité. Aujourd'hui, est-il possible, comme le pense Emmanuel Macron, de se rapprocher de la Russie de Vladimir Poutine ? Mais en attendant, c'est notre retour d'eux avec Majid Zerouki, journaliste au Monde qui revient d'Algérie où il a couvert la contestation et l'élection présidentielle du 12 décembre dernier. Bonjour Majid Zerouki.
Bonjour.
Alors d'abord une question d'actualité. La brutale disparition du général Salah, l'homme qui était aux manettes de l'Algérie depuis la démission de Bouteflika et qui est mort en début de semaine d'une crise cardiaque, n'a pas mis fin aux manifestations des Algériens. Pourquoi ?
Non, parce que la contestation algérienne ne vise pas des personnes, en fait. Autant M. Salah a cristallisé le blocage politique, puisqu'il a personnifié la feuille de route du pouvoir, celle de s'opposer à la contestation. Il a sauvé le régime en imposant sa feuille de route qui voulait être un retour à la légalité constitutionnelle, comme le prétendait, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il impose un président, une façade civile au régime militaire. Mais la contestation a évolué. La contestation en Algérie est née d'une révolte de dignité, un haut-le-cœur contre la reproduction du régime, son auto-reproduction avec la volonté d'imposer un cinquième mandat à Abdelaziz Bouteflika, c'est-à-dire un président mourant, un fantôme. Mais elle a évolué au fur et à mesure vers une contestation beaucoup plus politique et elle a elle-même élaboré son propre agenda politique. Les Algériens, aujourd'hui, veulent, selon la formule qu'ils martèlent à chaque manifestation, un état civil. Donc ils veulent déconstruire le régime actuel, qui est le régime FLN, armée FLN qui est née en 1962. Donc elle ne vise pas les personnes, même si lui-même cristallisait un peu la crise.
Et la contestation, et la répression aussi, non ?
Et la répression, évidemment.
Hein, les centaines d'arrestations depuis
évidemment,
ces derniers mois.
Puisque M. Salah n'a cessé de menacer, il est passé aux actes aussi également, il n'a cessé de menacer les contestataires, il a mis en branle la machine judiciaire et l'appareil sécuritaire contre des activistes, contre des manifestants. Il a tenté d'empêcher de reconquérir l'espace public, puisque ce qui fait la spécificité de cette contestation, c'est également la société qui a repris l'espace public dans les grandes villes, notamment dans la capitale Alger, où les manifestations étaient interdites depuis 2001, quand une manifestation venue de Kabylie avait dégénéré dans la capitale. Donc l'espace public était fermé à toute forme collective d'expression. Et l'un des principaux acquis, en fait, de ce mouvement de contestation est la reprise de l'espace public par des manifestations pacifiques. M. Salah a tenté d'entraver cette reprise de l'espace public, notamment en bloquant les accès de la capitale, en déployant un appareil sécuritaire assez impressionnant dans les rues. Il n'y est pas parvenu.
Alors, est-ce que vous sous-entendez, dans la première question que je vous ai posée, qu'en fait, sa disparition ne va rien changer ?
Alors si, elle peut changer beaucoup de choses. D'abord, c'est la fin d'une époque.
Laquelle ?
Ahmed Gaït Salah était le dernier représentant, de la génération qui a connu la guerre. C'est-à-dire que il avait fait partie de l'armée de libération nationale, puis s'était intégré à l'appareil militaire qui a construit le régime algérien contemporain qu'on connaît. Par ailleurs, elle change beaucoup de choses puisque l'armée algérienne est aujourd'hui à nu face à la société. D'ailleurs, Ahmed Gaït Salah a eu droit à des obsèques nationales avant-hier.
À nu, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de façade civile. Ahmed Gaït Salah a eu droit à des obsèques nationales et symboliquement, c'est quand même assez significatif puisqu'il a eu droit à des obsèques de chef d'État. C'est-à-dire avec un deuil national de 3 jours. Il a été enterré au carré des martyrs du cimetière d'Al-Alia à Alger, qui est l'endroit où on enterre des chefs d'État. Donc quand on disait qu'il était le dirigeant de fait de l'Algérie, de fait le régime l'a reconnu en l'enterrant tel un chef d'État.
Alors, l'élection présidentielle du 12 décembre dernier, elle a été remportée par Abdelmadjid Tebboune, un ancien premier ministre, éphémère premier ministre de Bouteflika, et proche collaborateur aussi, justement, de Gayed Salah. On prend les mêmes et on recommence ? Rien n'a changé en Algérie ?
Monsieur Abdelmadjid Tebboune est en fait le legs de Monsieur Salah, puisqu'il a été imposé par le chef d'état-major de l'armée. Alors on prend les mêmes et on recommence ? Non, puisque c'est le président le plus mal élu de l'histoire contemporaine du pays. Il a été élu dans un contexte de boycott massif et surtout actif, puisque les Algériens et les Algériennes sont descendus dans la rue le jour de son élection et massivement le lendemain. Donc il souffre d'une illégitimité populaire, puisqu'il n'y a pas eu de suffrage populaire pour l'élire, ou alors, en tout cas, une très très faible participation. Il souffre d'un autre handicap, celui d'être l'homme de son mentor, Ahmed Gayed Salah, qui n'est plus. Donc on prend les mêmes et on recommence, non, puisque le régime est extrêmement affaibli. Mais la balle est dans le camp aujourd'hui de M. Tebboune. Saura-t-il s'affranchir, le veut-il, de l'ombre tutélaire des militaires avec la disparition symbolique du premier d'entre eux, Ahmed Gayed Salah? Les prochains jours le diront. Il dit, lui, vouloir tendre la main à la contestation. Il doit prendre des mesures fortes et des actes forts symboliques, notamment les mesures d'apaisement qui sont réclamées par les manifestants et par une partie de la classe politique et de l'opposition civile, associative, syndicale. Première mesure symbolique à prendre, la libération des détenus politiques. 200 personnes sont aujourd'hui en prison en Algérie. 200 personnes issues du mouvement de contestation. Il doit ouvrir les médias publics, audiovisuels et aussi privés qui sont, on peut le dire, à la botte pour l'instant du système, puisque c'est un appareil de propagande aujourd'hui, l'espace médiatique algérien, à part évidemment une presse indépendante extrêmement courageuse qui tente d'apporter un contre-discours et une autre voix à la société. Donc il doit ouvrir cet espace et il doit aussi garantir la liberté d'expression dans les rues, puisque la liberté d'expression dans les rues a été arrachée courageusement par la société qui en a payé le prix fort, avec la répression, les arrestations. Il doit donner donc, il doit garantir le droit de manifester sans bloquer la capitale, sans bloquer les villes, en levant les barrages sécuritaires de police et de gendarmerie qui sont omniprésents en Algérie à l'entrée des villes, notamment les jours de mobilisation.
On va revenir sur ce qui pourra se passer ou non dans les semaines et les mois qui viennent. Je voudrais juste vous poser une question. Vous avez parlé de l'illégitimité du nouveau président, hein, mais est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la Kabylie qui a boycotté quasiment intégralement à 100% cette élection?
Ce n'est pas une surprise parce que la Kabylie a une spécificité de par son histoire récente. De ses relations tumultueuses avec le régime. La mobilisation en Kabylie est caractérisée par une radicalité qui n'existe pas ailleurs, due à l'antagonisme qu'il y a entre la population kabyle, enfin des régions kabyles, et les autorités. Et surtout, le traumatisme qu'a été le premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika, qui a été marqué par une révolte civique en Kabylie en 2001, qui a été écrasée dans le sang, puisqu'il y a eu 150 ou 160 morts. Et ce passé-là reste extrêmement prégnant là-bas. C'est aussi une région qui a une spécificité de par son organisation. Il y a un tissu associatif, politique, syndical, qui est plus développé qu'ailleurs. Et donc des capacités de mobilisation qui sont plus fortes, et surtout des formes de mobilisation qui n'existent pas ailleurs. Sauf que pour la première fois, la Kabylie n'a pas été seule. Si le scrutin a été boycotté à 100% là-bas, la région ne s'est pas distinguée par sa capacité de révolte et ne s'est pas distingué du reste du pays. On avait coutume de dire que seuls les Kabyles se révoltaient dans ce pays, ce qui a toujours été faux par ailleurs. Cette fois-ci, la Kabylie n'a pas été seule, et y compris le régime n'a pas pu la stigmatiser et stigmatiser sa singularité comme il le faisait auparavant. On n'est pas dans une révolte kabyle, on n'est pas dans un boycott de l'élection spécifique à la Kabylie. On a retrouvé ces formes de mobilisation à des degrés divers partout dans le pays. Et puis surtout, le discours véhiculé par le régime, qui a toujours actionné en fait cet antagonisme voulu entre Arabes et Kabyles, sont mieux divisés, et pour inculquer aussi le poison de la division au sein de la société, ne fonctionne plus. Le vendredi, par exemple, le lendemain du scrutin à Alger, où la mobilisation était massive, dans les quartiers populaires, dans les cortèges des quartiers populaires, on chantait « La Kabylie, bravo à vous, l'Algérie est fière de vous », ce qui était inimaginable il y a encore quelques années.
Finalement, qu'est-ce qui a changé depuis le départ de Bouteflika, si on fait un bilan, un premier bilan?
Tout est à faire, mais tout a changé. En fait, cette année 2019 marque l'irruption en fait, de la société algérienne comme acteur politique et social dans l'espace algérien. Le pays sort de 20 années d'hibernation qui ont été les 4 mandats de Bouteflika, marqués par la volonté d'étouffer toute expression de la société autonome. Les mandats de Bouteflika ont succédé à la guerre civile des années 90. Donc, en fait, c'est une génération qui découvre qu'elle existe. En fait, c'est la société civile qui réapprend à se connaître, qui a une certaine vivre ensemble, en fait, qui est une expression d'un vivre ensemble commun qu'on voit dans les rues algériennes. Les anciens retrouvent peut-être aussi leurs années de jeunesse, puisque on parle de deux générations sacrifiées, entre guillemets, même si je n'aime pas beaucoup ce terme. Mais en tout cas, il y a une société qui se redécouvre en tant qu'acteur commun, destin commun et une volonté commune de construire autre chose. Et ce autre chose qui est aussi spécifique cette année 2019, ce autre chose est une révolution civique. On demande à bâtir un État démocratique, un État civil. Alors que jusqu'ici, les crises révolutionnaires qu'avait connues l'Algérie avaient été soit des coups d'État militaires, soit une contre-idéologie, une prise de pouvoir par une idéologie autre, type les islamistes dans les années 90. On n'est plus du tout là-dessus, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Et il y a un profond désir de normalité, en fait. Les gens veulent vivre ensemble, y compris que des minorités puissent cohabiter auprès d'une majorité, que la majorité respecte la minorité. En fait, on veut des institutions démocratiques, tout simplement.
Alors, vous avez évoqué la possibilité que le nouveau président, en fait, donne des signes d'apaisement vis-à-vis de la contestation. Est-ce que l'autre option, qui serait une accentuation de la répression, est aussi possible?
Elle est toujours possible, mais elle serait suicidaire à plusieurs titres. D'abord, accentuer la répression jusqu'où? Puisque pour l'instant, la forme de la contestation actuelle, qui est aussi sa faiblesse, cette forme d'organisation horizontale, de génération, pas spontanée, mais d'activistes qu'on ne connaissait pas, un mouvement décentralisé fait qu'il est extrêmement difficile de couper la tête, ou alors on coupe de nombreuses têtes. Le degré supérieur de la répression serait de déployer massivement des forces de sécurité et de réprimer les rassemblements, de continuer à emprisonner. D'abord, l'État a-t-il la capacité de mobiliser les ressources nécessaires pour réprimer la population? C'est une question. Et de l'autre, le blocage peut perdurer et l'Algérie ne peut pas se permettre une autre année telle que celle-ci, puisque des défis extrêmement lourds se posent au pays et au futur pouvoir, notamment une crise économique endémique qui s'aggrave, une situation financière qui est catastrophique. Donc accentuer la répression est une très mauvaise idée.
Et alors, est-ce que le mouvement de contestation peut s'essouffler?
Possible, non, je n'y crois pas. Peut-être, il est appelé peut-être à avoir d'autres formes. Effectivement, les Algériens et les Algériennes vont-ils continuer à manifester 2 jours par semaine?
C'est beaucoup. C'est très lourd.
C'est très lourd, mais comme je vous l'expliquais, les gens m'ont dit qu'ils étaient fatigués, hein, certains. Des manifestants m'ont dit qu'effectivement ils étaient fatigués. Certains pensaient que ça serait plus facile, que le régime tomberait plus facilement. Mais il y a encore le carburant est toujours là. Le carburant qui est d'abord la question des détenus et des prisonniers est un carburant de mobilisation. Le régime qui perdure sous une autre forme, parce que l'acquis dont je vous parlais est énorme, celui de l'irruption de la société, d'une partie de la société comme acteur et comme opposition, mais rien n'a fondamentalement changé. Donc, on voit mal les gens s'arrêter à mi-chemin après tous les sacrifices endurés.
Est-ce que ce mouvement, est-ce que cette contestation est unie ou est-ce qu'il y a des divergences au sein des différents mouvements? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le portrait de cette contestation?
Unis sur un objectif qui est l'objectif dont je vous parlais et qui a été défini par la contestation elle-même, celle de la volonté de parvenir d'abord sur des revendications conjoncturelles comme la libération des prisonniers et puis la volonté de parvenir à des institutions démocratiques, enfin ce qu'on appelle un état civil. Après, elle est extrêmement diverse, il y a tout le monde. Hein. On retrouve toutes les sensibilités idéologiques de la société dans cette contestation. Vous allez voir un islamiste manifester à côté d'une démocrate. Mais il y a la volonté, ce qui fait peut-être aussi la faiblesse, la volonté de taire un peu aujourd'hui forcément ces divergences sur un modèle de société à venir au profit de l'objectif commun. Ce qui fait aussi cette faiblesse-là, on dit souvent, mais ces gens-là n'ont pas de représentants.
Oui, c'était ma question, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on voit émerger des figures fortes capables d'incarner, y compris politiquement, à l'avenir, la contestation algérienne?
Possible. Alors, il y a des figures. Vous allez dans les manifestations, il y a des gens qui se détachent, notamment des figures de la société civile, comme des avocats, qui sont entourés par des centaines de personnes ou des dizaines de personnes qui viennent leur dire bonjour. Mais il y a aussi cette peur qui est aussi significative du lien de confiance qui a été cassé quelque part par le régime autoritaire algérien. En fait, la contestation ne veut pas reproduire le schéma pyramidal, patriarcal du régime, avec la figure du chef qui dicte le bonheur aux autres. Donc, il est, y compris chez les figures de la société, il y a cette crainte d'apparaître comme le miroir des gens qu'on combat. Donc, avec la peur aussi d'être contesté, puisque il n'y a pas d'instance représentative, de fait, peut-être que les détenus, les figures qui sont en prison, pourraient jouer ce rôle, avec l'aura des barreaux, malheureusement, pourraient jouer ce rôle. Mais ça va être long, quand même, de restaurer cette confiance, de dire qu'à un moment donné, des représentants sont aussi des gens qui peuvent avoir des mandats et avoir des comptes à rendre. Ce qui n'est pas l'exemple qui a été offert par le régime algérien depuis qu'il est né en 1962. Il y a donc cette confiance à restaurer, y compris au niveau des gens eux-mêmes, en fait, de dire qu'on peut peut-être déléguer, on peut peut-être faire confiance. Mais en tout cas, pour l'instant, la balle est quand même dans le camp des autorités et de M. Tebboune. C'est à lui de faire le premier pas. La contestation, elle, est dans la rue deux fois par semaine. Donc la balle est pour l'instant du côté du président élu, qui doit aussi proposer une sortie de crise, un début de sortie de crise. Je pense qu'après la contestation va arriver petit à petit un moment de maturité où il faudra conceptualiser quand même toute cette énergie revendications politiques qui vont peut-être au-delà du slogan on veut un état civil, pour essayer de passer à autre chose. Peut-être des nouveaux mouvements vont peut-être émerger. Peut-être que sur le cimetière politique que laisse le régime de Bouteflika, c'est-à-dire que les partis d'opposition ont été décrédibilisés, sont faibles, peut-être que autre chose va peut-être émerger de toute cette énergie.
J'ai une dernière très petite question. Ce face-à-face, en fait, faiblesse contre faiblesse, hein, quand même aussi, il peut durer combien de temps?
On ne sait pas. Il peut durer encore longtemps, ce que l'on ne souhaite pas, puisque l'Algérie fait face à de très très gros défis, hein, ce que j'évoquais, notamment économique. Le pays est bloqué, le pays vit dans une extrême tension. Le pacifisme revendiqué des gens qui va perdurer s'est fait au prix quand même de sacrifices, notamment vis-à-vis de la répression, mais c'est quand même un pays qui est à cran. Donc cette situation ne peut pas perdurer éternellement.
Merci beaucoup Majid Zerouki. Je rappelle qu'on peut lire vos articles consacrés à l'Algérie dans Le Monde. Merci.
لا ترجع جازي زي ول جرغي وناتن تلغو تاسن
France Culture, Culture Monde, Isabelle Lasserre.
Et maintenant, place à notre table ronde consacrée aux relations franco-russes.
Notre ordre international vit un moment absolument historique. Le multilatéralisme est attaqué et nous avons à penser, à construire une recomposition de cet ordre international. C'est ma conviction profonde. C'est-à-dire à réinventer de nouvelles formes de relations et d'actions utiles. Ce sera au cœur des discussions du G7, au cœur de notre discussion aujourd'hui. Et dans ce cadre, la relation de la France et de la Russie et de l'Union européenne, est absolument déterminante. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Je sais tout ce qui a pu nous séparer, les malentendus des dernières décennies. Je sais aussi les débats qu'il y a sur la relation avec l'Occident. Je sais une autre chose, c'est que la Russie est européenne, très profondément. Et nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok.
2019 aura marqué un tournant dans la diplomatie française à l'égard de la Russie. Tout au long de l'année, Emmanuel Macron n'a cessé de tendre la main à Vladimir Poutine dans l'espoir de réchauffer les relations entre les deux pays. Il a réaffirmé sa volonté de se rapprocher du Kremlin dans son discours aux ambassadeurs à la fin de l'été. Il est temps, a-t-il dit, de rebattre les cartes avec la Russie. Depuis, il a joint les actes à la parole. En juin, c'est en grande partie grâce au soutien de la France que la Russie a réintégré le Conseil de l'Europe. Comme on l'a entendu dans cet extrait sonore, le président français a accueilli à bras ouverts Vladimir Poutine dans sa résidence d'été à Brégançon, quelques jours seulement avant le sommet du G7 à Biarritz, dont la Russie est exclue depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Cette rencontre faussement informelle a débouché sur l'organisation d'un nouveau sommet au format Normandie, censé œuvrer pour le retour de la paix en Ukraine. À défaut d'avoir donné des résultats probants, il aura au moins eu le mérite de réunir les présidents russes et ukrainiens le 9 décembre dernier à Paris. Mais cette main tendue à la Russie, outre qu'elle n'a pas encore eu de véritable succès, ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union européenne. Les pays d'Europe centrale et orientale sont furieux et inquiets, les défenseurs des droits de l'homme agacés. Alors pourquoi Emmanuel Macron insiste-t-il tant sur un rapprochement avec la Russie? Quelle est sa stratégie et quel compromis est-il prêt à faire? Assiste-t-on à un véritable réchauffement des relations ou n'est-ce qu'un jeu de dupes? Avec nous pour en parler sur ce plateau, Andrei Gratchev, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste des relations internationales et ancien porte-parole de Mikhail Gorbatchev. Votre dernier livre, Un nouvel avant-guerre, des hyperpuissances à l'hyperpoker, a été publié aux éditions Alma en novembre 2017. Françoise Thom, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et spécialiste de la Russie et votre dernier livre, Comprendre le poutinisme, est paru aux éditions Desclée de Brouwer en février 2018. Marc Sémot, enfin, du journal Le Monde, vous êtes notre partenaire habituel de vendredi. Bonjour Marc, je vous cède la parole.
Oui, alors ce reset, cette restauration des relations avec la Russie, ses trois prédécesseurs l'ont tenté, mais sans résultat. Aucun pourtant ne l'avait poussé aussi loin, au moins dans les intentions, qu'Emmanuel Macron. Son virage russe, le chef de l'État le veut, réaliste, ce sont ses mots, et sans naïveté. Il est lucide sur le danger que représente la Russie, comme il a pu en faire l'expérience pendant sa campagne électorale, mais il est aussi conscient de la nécessité de prendre en compte la nouvelle donne stratégique d'une Russie devenue incontournable pour résoudre les grandes crises internationales, la Syrie, l'Iran, la Libye, l'Ukraine, et pour garantir une stabilité en Europe. Mais sur le fond, la Russie nous questionne sur ce qu'est aujourd'hui l'ennemi. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, soulignait que l'URSS, pendant la guerre froide, était un ennemi structurel, mais que la Russie d'aujourd'hui est un ennemi conjoncturel, c'est-à-dire à la fois un partenaire nécessaire et en même temps une menace. C'est aussi le logiciel de l'Élysée. On peut s'interroger sur la pertinence de cette différence. L'URSS de Brejnev, engluée dans l'immobilisme, ou celle de Mikhail Gorbatchev, rêvant d'une maison commune européenne, représentait-elle réellement plus une menace systémique pour l'Occident que celle de Vladimir Poutine, ouvertement revanchiste, remettant en cause les équilibres européens de l'après 89. La Russie de Poutine remet en cause aussi les traités de contrôle des armements, mise sur l'outil militaire aussi bien pour garder le contrôle de son étranger proche en Géorgie ou en Ukraine que pour intervenir en Syrie et retrouver son rang de grande puissance. Elle ne cache pas non plus sa volonté de casser l'Union européenne en misant sur les mouvements populistes.
Andrei Gratchev, est-ce que c'est un vrai réchauffement? Est-ce que c'est vraiment une initiative propre à Emmanuel Macron ou finalement plutôt une tradition française?
Ah, il y a du tout dans cette démarche. Bon, vous avez utilisé le terme réinvention. Bon, comme ça vient d'être dit, c'est pas une vraie réinvention. Cette tentation du rapprochement entre la France et la Russie, elle date bien des décennies, si pas des siècles. Elle peut, pourquoi pas, faire partie de certaines constantes, je dirais, du paysage géostratégique ou géopolitique européenne, tout comme des relations bilatérales. Qu'est-ce qu'il y a du neuf dans cette réinvention à la Macron, dans sa démarche des bras ouverts en direction de Poutine? Bon, déjà, à mon avis, première chose, bon, il faut pas l'interpréter comme une sorte de cadeau de Noël pour Poutine. À mon avis, c'est tout simplement un constat assez sobre et réaliste des intérêts de la France, mais aussi de l'Union européenne, dans un contexte géostratégique mondial, avec pas mal des éléments nouveaux qui se sont déclarés, avec un Trump de notre côté, avec la Chine de notre, mais aussi avec le constat de ce que la politique de l'Union européenne conduite jusqu'à tout récemment en direction de la Russie dans les dernières années, n'a pas apporté des résultats tangibles. Et donc, autant peut-être de réfléchir à autre chose si on est intéressé de trouver des résultats. D'autant plus que, dans un certain sens, l'effacement ou la désertion de la scène géostratégique par la superpuissance ou l'hyperpuissance américaine, non seulement laisse la place, mais à mon avis encourage et peut-être pousse l'Europe à sortir de sa timidité qu'elle avait manifestée depuis la fin de la guerre froide, cherchant en quelque sorte de profiter du beurre et de l'argent du beurre. Sous-traitant les questions de sa sécurité aux États-Unis et en même temps essayant de profiter de cette tranquillité dans les relations sur le continent.
Alors François Stomme, Marc Semo a très bien listé en fait les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron voulait se rapprocher de la Russie, mais je voudrais vous demander concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre comme geste concret de la part de Vladimir Poutine? Et dans un deuxième temps, qu'a-t-il obtenu Emmanuel Macron depuis qu'il a tendu la main à Vladimir Poutine? Qu'a-t-il obtenu à part l'organisation d'un nouveau sommet de Normandie qui n'a pas donné grand-chose?
Oui, je suis extrêmement sceptique quant aux résultats de cette nouvelle politique à l'égard de la Russie. Mais je voudrais d'abord passer en revue les arguments d'Emmanuel Macron et examiner leur pertinence. D'abord, la question de la Russie européenne. On a eu un sondage ce mois-ci, je crois en décembre, un sondage Levada en Russie, où on posait la question aux Russes, est-ce qu'ils se sentaient européens? Eh bien, 55% des Russes considèrent que la Russie n'est pas un pays européen, hein, contre 37% qui considèrent que c'est un pays européen. Et j'ajouterais que ce chiffre de 55% diffère des résultats d'un sondage organisé en 2008 où il atteignait 36%. 36%. Donc 36% considéraient que la Russie n'était pas un pays européen. Donc la tendance va plutôt dans le sens d'un sentiment d'une différence de la Russie, et c'est évidemment le résultat de la propagande poutinienne depuis que Poutine est au pouvoir, hein, mais une propagande qui ne cesse de s'aggraver, propagande anti-européenne, stridente, hein, pour présentant l'Europe comme une zone de décadence et de perversion, dont les Russes sont abreuvés tous les jours. Donc il faut tenir compte de cet aspect-là. Emmanuel Macron a aussi d'ailleurs cité des auteurs russes, ce qui donnait un titre, je dirais, d'européen à la Russie. Il a cité Dostoïevski et Tolstoï, et je dirais qu'il n'a pas eu la main heureuse, hein, parce que, en tout cas, concernant Dostoïevski, c'était un europhobe virulent. Hein. Il a même avoué, et dans ses correspondances privées, éprouvé une haine pour l'Europe. Donc cet aspect-là aussi est contestable. Maintenant, je reviens aux arguments de fond, c'est-à-dire les bouleversements géopolitiques. C'est vrai que l'Europe ne semble pas peser beaucoup, hein, face aux États-Unis, à la Chine qui monte, et puis à la Russie. Alors l'argument d'Emmanuel Macron, c'est que justement l'Europe peut être tiraillée entre ces deux empires, hein, ces deux puissances, les États-Unis et la Chine, et que pour survivre en tant que sujet géopolitique, il faut qu'elle s'appuie sur la Russie. Alors je pense que ce qui dissuadera la Russie de s'aligner avec la Chine. L'idée, c'est d'arracher la Russie à l'entente ou à la coopération étroite avec la Chine, à l'orbite chinoise. Bon, je pense que cet argument ne tient pas la route, parce que le choix de l'entente avec la Chine de la part de Vladimir Poutine, c'est vraiment la politique de Vladimir Poutine, c'est sa politique personnelle. C'est un choix émotionnel, qui n'est pas rationnel, comme beaucoup d'aspects de la politique russe. Il faut bien tenir compte de ça. C'est une politique qui n'est pas rationnelle. Elle est guidée par des émotions. Et les émotions en question, ben, il s'agit justement de la haine de l'Occident, du rejet de l'Occident. C'est ce qui a rapproché la Russie avec la Chine, la Russie de la Chine, depuis la période Yeltsin, hein, depuis 96. Donc c'est l'émergence de la doctrine eurasienne et de cette doctrine géopolitique. Donc je crois que vouloir arracher la Russie à l'orbite chinoise, c'est parfaitement illusoire. Et la Chine est utilisée, au contraire, l'alliance avec la Chine, puisque Poutine a même parlé d'une alliance dans son discours de Valdaï. Il a dit « nous sommes alliés avec la Chine ». Cette alliance, elle doit donner un poids supplémentaire à la Russie pour faire pression sur l'Europe. Hein, c'est ça.
On va revenir sur les questions de fond. Marc Semo, concrètement, quels sont les premiers résultats de cette politique de rapprochement?
C'était un peu la question que je voulais poser, mais surtout, par rapport à ce que je disais sur la menace, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la menace de la Russie de Poutine est moindre ou plus forte sur l'Europe que celle de l'URSS finissante, ou même de l'URSS de Gorbatchev, que Andrei Gratchev connaît très bien. Quand Macron évoque un peu ce que pourrait... reprend ses idées de la maison commune, d'une certaine façon.
Oui. Bon, avant de répondre à votre question, je dirais une simple chose. Ne touchons pas à Dostoïevski. Qu'est-ce que ce serait la culture européenne sans Dostoïevski? D'ailleurs, dans ses carnets intimes, évidemment, comme n'importe qui peut écrire plusieurs choses, dépendant de son humeur. Mais, les textes de Dostoïevski, non seulement qu'ils ont constitué une partie de la fondation culturelle de l'Europe, mais il disait notamment, les pierres de l'Europe, font partie de l'héritage de la constitution de l'âme russe. Bon, laissons Dostoïevski tranquille. Pour ce qui concerne le scepticisme à l'égard de Poutine et du peu de résultats qu'a produit, à mon avis, assez peut-être trop rapidement, l'ouverture annoncée par Emmanuel Macron. À mon avis, déjà, même avec cette période relativement courte, on peut en citer pas mal. La rencontre de Paris, il ne faut pas le traiter d'une façon aussi presque méprisante, parce que pendant
de
plusieurs
Versailles,
années...
Vous parlez de celle de Versailles ?
Oui. Pendant, je parle de format de Normandie.
D'accord, la dernière, ok.
Voilà. Parce que depuis plusieurs années, et pratiquement, le conflit, y compris au niveau politique, entre la Russie et l'Ukraine, était complètement gelé. Ça représentait une impasse et évidemment un drame de sur le continent européen. C'est vrai que Poutine a réagi, à mon avis, suite à ses rencontres avec Macron à Versailles, mais aussi à Brégançon. Il me paraît à une sorte de suggestion avancée par Macron de ne pas laisser passer une chance que présente l'élection en Ukraine du nouveau président Zelensky. Et on a vu que Poutine a bien suivi ce conseil. On a vu déjà avant les résultats, enfin les réunions de format de Normandie, le dernier, déjà l'échange des prisonniers, la restitution des bateaux ukrainiens qui étaient restés arrêtés par les Russes. Mais pas que ça. Il y a eu d'autres signes qui montraient, à mon avis, le désir de réciprocité, ou peut-être le début, le promesse de réciprocité de la part de Poutine. Le fait que la Douma russe a d'un coup redécouvert les accords de COP21, les ratifiant en quelque sorte, en défiant la position contraire du Sénat, du Congrès et du président américain. Pour ce qui concerne par exemple les questions sur le désarmement, à mon avis, Emmanuel Macron a raison de réagir avec, je dirais un optimisme prudent, peut-être vigilant, à la suggestion de Poutine d'introduction de sorte de moratoire sur la reconduite des accords sur les armements de moyens de petite portée, dont l'initiative d'annulation vient quand même de Trump. Pareil pour ce qui concerne les accords sur les armements stratégiques. Et je termine avec la question de la Chine. Bon, la politique russe qui serait irrationnelle par tradition, pas plus irrationnelle
non,
que
pas,
la politique...
Pas par tradition, je dis celle de Poutine. Oui.
Bon, ici, dans votre remarque, à mon avis, vous négligez quand même un élément capital pour l'analyse de la politique de Poutine. L'évolution de cette politique. Cette politique qu'il a, enfin la position y compris à l'égard de l'Europe et de l'Occident qu'il a hérité de Yeltsin et curieusement aussi de Gorbatchev a débuté avec l'espoir de pouvoir reconduire cette avancée, ce rapprochement entre la Russie dans, au moins alors, par la période de ses premiers mandats.
Andrei Kravchev, c'est une des questions que je voulais vous poser, moi, là-dessus. C'est, d'où vient ce grand malentendu entre la Russie et l'Europe? Et qu'est-ce que l'Europe n'a pas réussi à faire en 89 et qu'elle aurait dû faire? Et est-ce qu'il est trop tard pour récupérer ce divorce, cette blessure?
Dans la politique, rien n'est jamais trop tard. Pour ce qui concerne les relations entre la Russie et l'Europe, par exemple, si vous comparez un Poutine j'appellerais un Poutine 1, avec son discours devant le Bundestag allemand, dans lequel il affirmait que la Russie faisait partie de l'Europe et donc qui recherchait d'être admis, bon, il n'a pas employé le terme romantique de Gorbatchev, de la maison commune, mais de toute façon dans les structures collectives, et pas seulement politiques, mais économiques et autres, dans le processus d'intégration, d'association avec l'Europe. Qu'est-ce qui, à qui la faute? Qu'est-ce qui se produit depuis? Bon, à mon avis, ce qui est important, enfin, ce qui est utile, au moins, dans la politique, c'est d'essayer de se mettre du côté de votre adversaire, ou enfin, de votre partenaire, et d'essayer de regarder, eh bien, la situation par les yeux de Moscou. Par exemple, on entend souvent une question qui, eh bien, qui revient toujours, jusqu'où irait Poutine? Mais il est curieux, mais c'est tout à fait naturel de ce que, de certains points de vue, les Russes ont droit à se poser la question jusqu'où irait l'OTAN. Et c'est ça le problème, parce que depuis la fin de la guerre froide, depuis la disparition de l'Union soviétique avec sa menace et du pacte de Varsovie, eh bien, c'est-à-dire avec la Russie qui était à genoux, enfin la formule que les Russes eux-mêmes accepté, eh bien, ça n'a pas empêché à la stratégie de l'OTAN d'avancer en direction, enfin, de cet espace qui a été évacué, qui a été volontairement, d'ailleurs, libéré par l'Union soviétique depuis le temps de Gorbatchev.
François Stomp, j'imagine que vous n'avez pas la même analyse qu'André Gratchev.
Non, allez-y. Et je voudrais alors me placé du point de vue russe, comme me dit André Gatchev, et voir ce que Poutine a engrangé depuis justement le reset avec la France. La France n'a pas engrangé grand-chose, mais Poutine, lui, il a engrangé pas mal de choses.
Allez-y.
D'abord, il a, et je crois que c'était le sens de cette rencontre de Normandie, c'était de faire sentir aux Ukrainiens qu'ils n'ont pas l'appui des Européens, hein, c'est surtout ça. C'est-à-dire que l'idée de Poutine, c'est que l'Europe contribue à faire capituler l'Ukraine, et c'est le sens de ce processus de Normandie. Bon, il a obtenu donc que la France relance ce processus qui était enlisé, sans en faisant quelques petites concessions de forme, mais sur le fond, la politique russe à l'égard de l'Ukraine, depuis le fameux sommet, est plus offensive que jamais, si on peut dire, hein, puisque les Russes distribuent des passeports russes avec une procédure accélérée aux Ukrainiens, avec une politique de dépopulation, ils cherchent à dépeupler l'Ukraine. Il y a l'achat de grands médias ukrainiens par des oligarques pro-russes, etc., depuis cette rencontre de Normandie. Donc une volonté de saper l'État ukrainien par tous les moyens qui apparaît clairement. Qu'a engrangé Poutine? Le fait que la France ait bloqué l'élargissement de l'Union européenne à la Macédoine
du Nord,
à la Macédoine du Nord, c'est un beau cadeau à Poutine, parce que comme l'a signalé la presse russe de façon triomphale, c'est aussi un signal qui est envoyé aux Ukrainiens, aux Géorgiens. Vous n'avez rien à attendre de l'Europe, parce que l'Europe maintenant, elle suit la politique de Moscou. Vous avez aussi la visite du ministre des Finances à Moscou, qui a annoncé que la France chercherait à contourner les sanctions. Elle se donne 6 mois pour trouver un moyen de contourner les sanctions. Bref. Et je ne cite que quelques exemples, il y en a beaucoup plus. Et en échange, qu'obtient la France? Les ossements du général Gudin, n'est-ce pas? Voilà le rapport, je dirais la symétrie, hein, dans le rapport avec la Russie. Donc, pour conclure, à mon avis, le dialogue avec Poutine n'est pas possible, tout simplement. Ce qu'attend Poutine, ce qu'il guette, c'est les signes d'une capitulation de son interlocuteur. C'est ce qui l'intéresse. Il teste sa capacité de résister, il teste sa volonté de résister. Alors la France, visiblement, elle a, en tout cas, elle semble adopter un peu le discours du Kremlin ces derniers temps, et c'est pour la Russie un signal de faiblesse et un signal qui montre qu'on peut aller plus loin, tout simplement.
Alors, on va poursuivre ce débat, mais avant ça, on va laisser la place à notre partenariat avec Cartooning for Peace. Chaque vendredi, on commente un dessin lié à notre sujet du jour.
Il fait le clown !
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux !
Assis !
Et le dessin que vous avez sélectionné, Hélène Lefrançois, est une belle illustration justement du rapport de force entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.
Oui, et on voit que les présidents français et russes ont deux styles très différents, deux visions très différentes de la diplomatie. D'un côté, Emmanuel Macron se montre distingué et courtois. Vêtu de son éternel costume bleu marine, il tend une main vers son homologue russe, tout en gardant délicatement l'autre main derrière son dos. Face à lui, Vladimir Poutine fait peu de cas de ses manières. Il a simplement enfilé un pantalon militaire et des chaussures de Rangers. Torse nu, il exhibe ses biceps et ses abdos, comme il aime le faire devant les médias d'État, pour renvoyer à ses citoyens et au monde l'image d'un homme viril. Car dans la tête du maître du Kremlin, la virilité est un symbole politique, le signe qu'il est un homme fort, qu'il ne fléchira pas, aussi bien face à ses opposants que face à ses homologues étrangers. Sur ce dessin, Poutine fait également une belle démonstration de manspreading, la position de l'homme dominant par excellence. Assis à la table des négociations, les jambes écartées, il ne prend même pas la peine de regarder et encore moins de sourire à son interlocuteur. Le coude posé sur la table, il se contente de laisser une main ouverte, comme s'il était prêt à accepter celle de Macron, mais surtout comme s'il se préparait à se lancer littéralement dans un bras de fer. Cette caricature a été croquée par le dessinateur de presse Laurent Salle et publiée dans le quotidien régional L'Alsace le 29 mai 2017. C'était à l'occasion de la rencontre entre Poutine et Macron à Versailles, mais elle est encore très pertinente aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, on l'a vu cette année, c'est le président français qui n'a cessé, par les mots et par les actes, de tendre la main au président russe. Et si Poutine n'est pas insensible au numéro de charme de son homologue, il semble rester droit dans ses bottes, conforme à l'image de l'homme viril. Le dessinateur Laurent Salle s'est permis d'ajouter un tatouage sur l'épaule de Poutine, une étoile rouge qui fait référence au drapeau de l'URSS. Alors c'est peut-être ça la diplomatie, selon l'ancien officier du KGB, une manière de faire à l'ancienne, héritée de la période soviétique. On peut alors se demander si les deux chefs d'État parviendront un jour à se retrouver à mi-chemin entre leurs deux mondes.
Alors justement, Andrei Kravchev, merci beaucoup Hélène Lefrançois. Justement, y a-t-il... pensez-vous un compromis possible à trouver qui pourrait réunir la Russie et les deux parties de l'Europe ?
Bon, écoutez, déjà pour ce qui concerne les poignées de main, eh bien on peut autant redessiner peut-être une fameuse poignée de main entre Macron et Trump, voilà, dans laquelle Trump se montrait peut-être ou cherchait à se montrer plus viril que le président américain. Bon, pour ce qui concerne les compromis, à mon avis, enfin, pour ce qui concerne les compromis, ils sont, à mon avis, ils ont de la valeur s'ils sont considérés non pas comme un exercice en compétition dans les capitulations, mais en la recherche de terrain et de l'intérêt commun. Et je crois que le fait que du côté ukrainien, on a pu constater, autant que du côté russe, enfin, l'esprit positif et enfin une perspective de l'évolution de la situation en Ukraine, c'est déjà à mon avis une promesse importante. Autre part, quand je disais que le rapprochement entre la France et la Russie ne doit pas être interprété comme un cadeau offert à Poutine, mais plutôt comme le constat de l'intérêt, parce que il y a deux types d'intérêts, à mon avis, côté français, mais côté Union européenne, qui seraient recherchés de la part de la Russie, parce que on peut autant rester figé ou gelé dans la position du scepticisme, mais alors ça nous amène où? En attendant à ce que un jour Vladimir Poutine tombe ou meurt, enfin ce qui va se produire. Mais ce serait illusoire de voir à sa place apparaître, par exemple, un Václav Havel ou même un Gorbatchev bis. Pas du tout. Par contre, ce qui, à mon avis, se joue actuellement, pas seulement sur la scène internationale, mais sur la scène russe, c'est aussi la perspective de l'après-Poutine. Et la perspective de l'élite qui, actuellement, doit, enfin, l'élite prochaine, qui est en train de rechercher et de voir la perspective dans, je dirais, les nouvelles relations ou peut-être la réadmission de la Russie dans la maison, ne l'appelons pas la maison commune. Les compromis, à mon avis, viennent, ou leur nécessité, du fait de ce que la Russie, on peut pas se passer de la Russie dans la solution des problèmes vitaux et importants, autant pour ce qui concerne la sécurité européenne que les grandes crises internationales, en commençant par la Syrie et en passant par l'Iran. Et deuxième intérêt, à mon avis, aussi important, de l'Europe dans son ensemble, pas que de la France, c'est de retarder et peut-être de contourner la dérive de la Russie en direction de la Chine, qui, à mon avis, n'est pas encore tard d'arrêter.
Marc Sémon.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même, dans cette politique de Macron, quelque chose qui l'isole de la majorité des Européens? Les Allemands sont très perplexes, mais surtout c'est à l'Est qu'il y a une peur. C'est-à-dire, à l'Est, en Allemagne aussi, mais à l'Est encore plus, avec encore plus d'évidence, on met ensemble parler de la mort cérébrale de l'OTAN, refuser l'élargissement, la Macédoine du Nord et donc cette ouverture vers la Russie, comme quelque chose qui un peu fait basculer la France dans un espèce de retour du gaullisme dans un monde quand même totalement différent, qui inquiète. Alors je voudrais poser la question d'ailleurs peut-être d'abord à François Stamm. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude des Européens? Alors oui, on a envoyé Le Drian rassurer les Polonais, les Tchèques, on a dit les missiles, on est là pour garantir face aux missiles Iskander, etc. Mais est-ce que vous comprenez leur peur?
Oui, non seulement je la comprends, mais je la partage largement. Mais je voudrais revenir à ce que disait André Gratchoff tout à l'heure à propos de la perspective de la succession. Justement, je pense que c'est une des raisons, une raison supplémentaire de garder le cap de la fermeté à l'égard de la Russie. Parce que, au fond, dans les sanctions, l'isolement de Poutine, ils avaient des causes précises, hein. C'était l'occupation de la Crimée, l'agression contre l'Ukraine, etc. Bon, ces causes n'ont pas changé. Non seulement cela, mais la politique du régime poutinien devient de plus en plus répressive à l'intérieur. Et je dirais que le reset avec la France s'accompagne en Russie d'un durcissement de la politique répressive, d'un alourdissement des répressions sur la population russe. Donc, à mon avis, donner aux élites, au pouvoir en Russie, l'idée qu'en maintenant cette ligne dure et intransigeante, ils obtiennent sur un plateau les concessions qu'ils souhaitent de l'Europe, c'est pas une bonne idée, y compris pour la Russie. En revanche, un échec de politique étrangère, des échecs de politique étrangère, amènerait les élites russes à se poser des questions sur la ligne qui a été suivie jusqu'à aujourd'hui et peut-être à changer de politique, y compris à l'égard de leurs propres concitoyens.
Il y en a des échecs de politique étrangère?
Voilà. Mais,
par exemple, l'échec de la politique européenne. Si les Européens gardent le cap, les sanctions, l'isolement de Poutine en n'allant pas, par exemple, célébrer l'anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique, hein, qui est, c'est aussi un signal fort à l'idéologie poutinienne, tout ça serait efficace. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs au début des années 80, quand l'Occident a adopté une ligne ferme, Reagan, eh bien, le régime soviétique a commencé à faire des réformes et à changer. Bon, et je pense que ça peut tout à fait se reproduire maintenant, étant donné qu'il y a une crise en Russie, il y a une crise qui n'est pas aiguë, mais qui est larvée, une crise économique, une crise politique aussi. Donc l'Occident a tout intérêt à rester ferme pour inciter les élites russes, les successeurs de Poutine, à tirer les leçons des échecs, des erreurs qui ont été commises par leurs prédécesseurs. Si on veut vraiment un dégel en Russie, il faut un Occident solidaire et ferme.
André Gratchev.
Oui, bon, écoutez, je me sens un peu dans une situation d'il y a 50 ans. Eh bien, cette plaidoirie pour l'Occident ferme qui finira par faire la Russie ou l'Union soviétique disparaître et capituler. Bon, pour ce qui... Soyons sérieux, quand même. L'isolement... bon, déjà, on parle d'un double isolement. Vous avez évoqué l'isolement de Poutine ou les échecs de sa politique extérieure, alors que, eh bien, il suffit d'écouter les médias ou d'ouvrir les journaux, on voit le constat de Poutine triomphateur pratiquement sur tous les fronts, à partir de la Syrie jusqu'à... en reprenant vos termes aussi dans sa politique à l'égard de l'Europe. Pour ce qui concerne l'isolement de Macron, là, vous avez raison de dire qu'il y a une sorte de risque important à qui faire face Macron avec ce tournant qu'il propose, pas seulement pour la politique française, mais pour la politique européenne. Mais soyons encore une fois francs avec nous-mêmes. Jusque-là, qu'est-ce qu'a donné cette politique des sanctions de l'Europe à l'égard de la Russie? Le contraire de résultats auxquels vous avez espéré, c'est plutôt le durcissement, pas seulement du régime, mais de la mentalité des Russes, de l'opinion publique des Russes, qui commence à cesser de voir en Europe ce qui faisait partie de la tradition culturelle et historique russe, de considérer l'Europe comme l'horizon, comme une partie de la famille classique et naturelle pour la Russie. Pour ce qui concerne l'isolement de Macron, ça peut être quand même être qualifié d'un isolement de leader, de quelqu'un qui ose et a le courage de rompre un cercle vicieux, surtout après avoir constaté que tourner en rond sans obtenir de résultats réels de sa politique n'avance pas ni sur le chemin des résultats, ni sur le chemin des intérêts propres de l'Europe.
Bon, on n'aura pas le temps de répondre à cette dernière suggestion d'Andrei Gratchev. De Culture Monde. Merci à Andrei Gratchev, François Stomm et Marc Semo d'y avoir participé. Vous pouvez réécouter et podcaster toutes les émissions de la semaine sur le site de France Culture. Dès lundi, vous retrouverez Florian Delorme. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end.